Chapitre 3. Conséquences. Après qu'on eut pris toutes les précautions nécessaires relativement à Lavinia et à ses habits, pour qu'il n'y eût plus rien à craindre en cas que la contagion eût, dans le premier moment, épargné Eugénia, Madame Tyrold fixa le jour où elle irait reprendre cet enfant. Sir Hugh, à la prière de Camilla, invita la petite compagnie à se rassembler encore, de bonne heure dans la matinée, pour qu'avant l'arrivée de Madame Tyrold, on se dédommageât par quelques divertissements de ceux dont on avait pu jouir le jour de la fête, et il fit assurer Madame Tyrold qu'Eugénia ne sortirait point et ne verrait aucun étranger. Les plaisirs recommencèrent de plus belle, et tout se passait avec autant de sécurité que de joie, lorsque Lionel proposa de s'amuser dans le parc à se mettre à cheval sur une planche. Le jardinier se hâta donc d'en apporter une, qui fut placée sur le tronc d'un vieux chêne et retenue à droite et à gauche par deux fortes branches. Camilla, sa cousine et sa sœur Lavinia, ainsi que les deux jeunes hommes, se balancèrent tour à tour avec autant de plaisir que d'adresse. Pour Eugénia, Sir Hugh, qui était devenu extrêmement attentif à son égard, n'osait lui permettre de partager ce jeu jusqu'à ce que les instances de l'enfant eussent renversé toute sa prudence. Mais l'embarras était de concilier un pareil divertissement avec le soin de sa conservation. Enfin, après bien des tentatives, il résolut de ne la confier qu'à lui-même et, la tenant dans ses bras, il se plaça sur un bout de la planche, invitant les autres à s'asseoir de l'autre côté, dans un nombre suffisant pour faire un juste contrepoids. Le plaisir fut bien court, mais les suites en devaient durer longtemps. Edgar Mandelbert, à qui l'on s'en était rapporté, fit si bien que l'équilibre était parfait. Mais à peine Sir Hugh se sentit élevé que la tête lui tourna et, couvrant les bras sans le vouloir, il laissa échapper Eugénia. Dans le premier mouvement de sa frayeur, il s'allongea brusquement pour la retenir, mais il perdit l'équilibre et, au lieu de la sauver, il la suivit à terre. Tout fut aussitôt dans le plus grand désordre. Edgar, avec une adresse admirable, avait prévenu la chute des trois jeunes filles qui étaient de l'autre côté, tandis que Lionel, seulement occupé de lui, avait sauté à bas de la planche. Sir Hugh, rompu et brisé, ne put être relevé qu'avec bien de la peine. Mais tout l'intérêt, toute l'attention, se fixèrent bientôt sur la petite Eugénia, dont les cris redoublés faisaient craindre qu'elle n'eût bien plus souffert que les autres. Elle fut portée à la maison dans les bras d'Edgar et remise à la gouvernante. Comme elle ne cessait de crier tandis qu'on la déshabillait, Mandelbert, persuadé qu'elle était blessée, monta de lui-même à cheval et courut chercher un chirurgien. Mais quelle fut l'horreur de Sir Hugh en entendant le chirurgien prononcer qu'elle avait l'épaule gauche cassée et un genou démis. En proie aux plus vives angoisses, il s'enferma dans sa chambre, incapable de rien écouter et de donner aucun ordre, et on ne put obtenir de lui qu'il ouvrit sa porte qu'au moment où Madame Tyrold arriva. Alors, se précipitant au-devant d'elle, saisissant ses deux mains et les serrant dans les siennes, il versa un torrent de larmes et s'écria au milieu des sanglots « Haïssez-moi, ma chère sœur, vous ne pouvez vous en empêcher, car je suis fâchée de vous le dire, mais je crois que j'ai tué votre pauvre et innocente Eugénia. » Pâle et la mort dans le cœur, mais toujours maîtresse d'elle-même, Madame Tyrold dégagea ses mains et lui demanda où elle était. Sir Hugh ne pouvait ni entendre ni répondre, mais Edgar, qui accourait pour lui apprendre avec plus de ménagement ce qui s'était passé, lui exposa le fait en peu de mots et la conduisit auprès de sa pauvre fille. Madame Tyrold, quoique anéantie à un pareil spectacle, sut conserver ses sens pour un meilleur usage que celui des lamentations. Elle tint l'enfant dans ses bras, tandis que le chirurgien lui donnait les secours de son art, la remit dans son lit et la veilla la nuit entière auprès d'elle. Mais en dépit de toutes les précautions, la fièvre survint et, de moment en moment, Eugénia fut plus mal. Le lendemain n'apporta d'autres changements à ce fâcheux état que les symptômes effrayants mais certains de la petite vérole. M. Tyrold était aussi venu s'établir à Clèves pour soulager son épouse dans ses tendres soins, ne quittant la chambre de sa pauvre fille que pour consoler son malheureux frère qui s'était absolument confiné dans son appartement, refusant même de voir Camilla et s'accusant d'être un monstre trop méchant pour lever les yeux sur un être bon et innocent, quoique la pauvre enfant qu'il aimait, désespérée d'être privée de sa vue, se présentât sans cesse à sa porte. La maladie se développait de la manière la plus alarmante et les parents n'eurent bientôt plus d'espérance, quoiqu'ils redoublassent d'attention. Alors Sir Hugues s'abandonna tout à fait au désespoir, refusa toute nourriture, hormis le pain et l'eau, ne laissa personne approcher de sa chambre, pas même la lumière du jour, et se maudit lui-même comme un meurtrier volontaire. Il continuait cette austère pénitence lorsqu'au moment où l'on espérait le moins, le mal prit tout à coup un caractère plus favorable et le chirurgien déclara que l'enfant pourrait en réchapper. Aussitôt, la joie de Sir Hugues devint aussi excessive que son chagrin l'avait été. Il parcourut toute la maison, il commanda qu'elle fût illuminée, il promit une année de gage à tous les domestiques, il ordonna à son concierge de faire des distributions de viande et de bouillon à tout le village, il prit des mesures pour que les cloches des trois paroisses les plus voisines fussent sonnées pendant un jour et une nuit. Mais quand M. Tyrold, pour lui épargner tous les inconvénients d'une joie trop prématurée, lui eut représenté combien l'état de la malade était précaire, combien de dangers il y avait encore à craindre, le baronnet rétracta tous ses ordres, retourna tristement à sa chambre et protesta qu'il n'oserait plus se réjouir jusqu'à ce que Mme Tyrold elle-même vint lui dire que tout le péril était passé. Ce terme heureux et si impatiemment attendu arriva enfin. Eugénia, quoique entièrement sillonnée et défigurée par les ravages ineffaçables de cette terrible maladie, entra en convalescence. Et Mme Tyrold, heureuse d'avoir conservé sa fille, quoique son œil pût à peine la reconnaître, le cœur rempli d'une pieuse reconnaissance, devint le messager de la paix. Elle présenta la main à Sir Hugues et l'assura qu'Eugénia serait bientôt rétablie. Sir Hugues, dans l'extase du bonheur, oublia toutes ses infirmités et rien ne put l'empêcher de courir à la chambre de sa nièce où il voulait, disait-il, se mettre à genoux devant elle et y remercier Dieu qui la leur avait rendue. Mais lorsqu'en entrant, il aperçut l'affreux changement que le mal avait fait sur cette figure auparavant si aimable, qu'il y eut cherché en vain quelques traits, quelques vestiges de son ancienne beauté, il fit deux pas en arrière, se tordit les mains, s'écria qu'il était la plus criminelle de toutes les créatures, et, ne se soutenant plus, il tomba dans un fauteuil où il donna un libre cours à ses pleurs et à ses sanglots. Eugénia se mit à crier aussi, sans savoir pourquoi. Et Mme Tyrold, représentant à Sir Hugues combien de pareils transports étaient déplacés, elle le pria tranquillement de se retirer et de calmer ses sens. « Oui, ma sœur, répondit-il, oui, je m'en vais, car je ne puis la regarder sans penser que tout cela est mon ouvrage. Oh, mon frère, oh, ma sœur, pourquoi tous les deux ne me tuez-vous pas? Quel dédommagement puis-je lui offrir? Quel dédommagement, hors une misérable vétille, un peu d'argent? Mais pour cela, Dieu le sait, elle aura jusqu'à mon dernier shilling. Oui, elle l'aura si je ne meurs que demain. » Un peu soulagé par l'idée qui lui était venue, il s'enhardit à tourner encore les yeux sur Eugénia en s'écriant « Oh, qu'elle puisse seulement revenir à la vie, qu'elle puisse soulager ma conscience du reproche de l'avoir tuée et dès l'instant même, une guinée pour chaque couture de ce pauvre visage, voilà ce que je veux lui donner, oui, dès cet instant, car je crains de n'en avoir plus deux à vivre. » Madame Tyrold fit peu d'attention à ce qu'il venait de dire. Mais M. Tyrold tâcha de le dissuader d'une mesure si soudaine et si injuste à l'égard des autres. Sir Hugues ne voulut rien écouter, il descendit l'escalier aussi vite qu'il le pouvait, demanda son chapeau et son bâton, commanda à tous ses domestiques de l'accompagner, et en ne cessant de se dire qu'il voulait se mettre hors d'état de changer de dessein, il entra dans la chapelle de famille et, s'approchant de l'autel avec précipitation, il se mit à genoux, ordonna à chacun d'écouter ce qu'il allait dire et de servir de témoin, et jura solennellement que, si le rétablissement d'Eugénia pouvait le justifier du crime d'homicide, il expirait le mal qu'il lui avait fait en lui léguant tout ce qu'il possédait au monde, terres, rentes et argent comptant, sans en distraire seulement un liard. Il recommanda à tous ceux qui étaient présents de se rappeler cette promesse et de l'attester dans le cas où il tomberait en apoplexie avant d'avoir pu la faire coucher par écrit. Alors, retournant chez lui, extrêmement soulagé, disait-il, de tous les reproches intérieurs qui, depuis 15 jours, lui avaient rendu la vie insupportable, il envoya chercher le notaire de la ville voisine et prit le chemin de sa chambre pour l'y attendre avec un esprit beaucoup plus tranquille. « Oh, mon cher oncle !» s'écria Camilla, si longtemps banni de sa présence, mais qui, l'entendant monter, courut légèrement après lui. « Que je suis aise de vous revoir! J'ai presque pensé que je ne vous verrai plus !» Ici s'évanouit encore une fois le calme de Sir Hugh. La satisfaction intérieure dont il se félicitait ne put tenir contre la vue de sa chère favorite. Il la considéra comme une créature innocente dont il allait signer le malheur. Il n'osa point la regarder, son cœur s'émut en sa faveur, ses yeux se remplirent de larmes, et d'un pas faible et tremblant, il s'avança vers sa chambre. « Mon très cher oncle, » dit Camilla, qui l'arrêtait par son habit et se suspendait à son bras. « Ne voulez-vous plus me parler ?»« Je le veux, ma chère, je le veux, soyez-en sûre, » répondit Sir Hugh, en tâchant de cacher son émotion. « Mais à présent, ne me suis donc pas, Camilla, car j'ai vraiment affaire. » « Oh, mon oncle !» s'écria-t-elle d'une voix plaintive. « Et il y a si longtemps que je ne vous ai vu, et je désirais tant de vous voir, et j'ai été si inquiète pour Eugénia, et vous avez toujours fermé votre porte, et je n'osais pas y frapper, dans la crainte que vous ne fussiez endormie. Mais pourquoi ne voulez-vous pas me voir, mon oncle, et pourquoi me renvoyez-vous ?»« Ma chère Camilla, » répondit-il avec une agitation encore plus vive, « j'ai de grands torts avec toi. J'ai agi comme ton plus mortel ennemi, et c'est pour cela que je ne me soucie pas de te voir. Ainsi, va-t'en, je t'en prie, car j'ai du chagrin assez sans cela. Mais reçois mes remerciements pour tout le plaisir que tu m'as procuré jusqu'ici. Je n'ai plus rien de mieux à t'offrir en récompense, et c'est bien peu de choses d'un oncle à sa nièce. » À ces mots, il s'enferma dans sa chambre, laissant Camilla baignée de pleurs. N'ayant pas le courage de l'instruire lui-même du changement, si désavantageux pour elle, arrivé dans ses dispositions, il fit appeler Edgar Mandelbert, qui, pour le moment, séjournait à Clèves avec toute la famille de Tyrold, et lui apprit tout de suite la nouvelle destination qu'il venait de faire de son bien, le priant d'adoucir ce coup inattendu à sa pauvre petite favorite, et de l'assurer qu'elle serait toujours la première dans son cœur, quoique pour l'acquis de sa conscience, il eût été obligé de choisir une autre héritière. Edgar, dont le zèle à servir et à obliger, n'avait jamais été mis à une aussi rude épreuve, hésita un moment à se charger de cette commission. Il s'y résigna pourtant, dans la crainte que les domestiques de la maison ne fissent, avec moins de ménagement que lui, parvenir cette mauvaise nouvelle aux oreilles de Camilla. Il la suivit dans le jardin où elle était allée pleurer loin des yeux de tout le monde, mais en la voyant si affligée, il jugea qu'elle était déjà instruite et retourna sur ses pas pour se concerter avec Indiana, qui l'informa de l'objet de sa commission en la priant de venir avec lui consoler sa pauvre cousine. Indiana se sentait elle-même trop blessée par ces nouvelles dispositions de son oncle pour s'occuper de Camilla. Elle se récria contre la perte de ses espérances et de celle de son frère, laissant même échapper des regrets, non seulement sur la préférence donnée d'abord à Camilla par Sir Hugh, mais encore sur le rétablissement de la petite Eugénia. Edgar l'écouta avec surprise et s'étonna de voir combien ses preuves d'un mauvais naturel la faisaient paraître moins belle à ses yeux. Il se hâta aussitôt de retourner auprès de Camilla, qui, essuyant ses pleurs à son approche, lui dit qu'elle s'occupait à examiner les fleurs et, sans lever les yeux, lui demanda s'il en voulait quelques-unes. Il accepta un bouquet, mais d'un ton si plein d'attendrissement et de pitié que Camilla, ne pouvant plus se contenir davantage, laissa de nouveau un libre cours à ses larmes. Extrêmement affectée, Mandelbert s'efforça de la consoler. Mais les plaintes répétées de Camilla sur l'espèce d'exil auquel son oncle la condamnait lui prouvèrent bientôt qu'elle ignorait encore ce qu'il était chargé de lui apprendre. Alors, mais non sans trembler d'avance du coup qu'il allait lui porter, il s'acquitta de sa commission le mieux qu'il lui fut possible. À peine Camilla l'eut entendu, que, joignant ses deux mains avec transport, elle s'écria « Oh, si c'est là tout, si mon oncle m'aime encore autant qu'il m'aimait, Je suis sûre que jamais, jamais, jamais je ne serai assez méchante pour être jalouse de la pauvre petite Eugénia qui a tant souffert et qui a été à deux doigts de la mort parce qu'elle sera plus riche que moi. » Edgar, enchanté, crut qu'elle était devenue 100 fois plus belle qu'Indiana. Il lui saisit la main avec vivacité et la conduisit dans l'appartement du pauvre Sir Hugh qui ne cessait de se désespérer. Et là, il ne put retenir les larmes d'attendrissement et d'admiration au touchant spectacle que lui offrit la généreuse affection de Camilla, s'empressant de consoler la douleur de son oncle, douleur qui n'avait d'autre source que le tort qu'il faisait à cet aimable enfant. Ils restèrent dans cette intéressante situation jusqu'à l'arrivée du notaire qui se fit expliquer les intentions de Sir Hugh et sur le champ, pour le contenter, dressa un acte qui assurait, après sa mort, tous ses biens, quels qu'ils fussent et sans aucune réserve, à sa nièce Eugénia. L'acte fut signé et scellé, et Sir Hugh se hâta d'emporter la copie à M. Tyrold. Toutes les remontrances de son frère furent inutiles. Sir Hugh protesta qu'il n'y avait aucun autre moyen de soulager sa conscience. La généreuse petite Camilla, au lieu de s'en plaindre, venait de lui pardonner, et il était impossible à Sir Hugh de voir Eugénia sans que son cœur fût prêt de se briser. « Vous, mon frère, s'écria-t-il, qui ne pouvez savoir tout ce que mes remords m'ont déjà fait souffrir, vous ne pouvez savoir non plus ce qui peut les apaiser, car si elle était morte, vous auriez eu la consolation de dire que j'étais son meurtrier, ce qui vous aurait donné la satisfaction de penser que vous n'aviez aucune part dans ce malheur. Mais que serais-je devenu, moi, qui aurais eu ce poids tout entier sur ma tête? Aujourd'hui, pourtant, grâce à Dieu, je ne dois plus de ce côté avoir d'inquiétude. Car, pour ce qui est de la perte de sa beauté, ce n'est pas, je l'espère, un si grand malheur qu'elle ne puisse en être dédommagée par une grande fortune, ce qui, certainement, vaut beaucoup mieux, étant plus durable. Et, Dieu nous soit en aide, qu'est-ce que la beauté? Rien de plus qu'un plaisir pour les yeux. » Aussitôt, il quitte son frère et va droit à l'enfant, dans l'intention de l'embrasser. Mais dès qu'il l'eut aperçu, il s'arrête et soupire malgré lui, en disant « Après tout, ce n'est plus là la même Eugénia, pas plus qu'à présent je ne suis moi-même. Jamais, jamais, je ne pourrai la reconnaître, quoi que ce soit bien elle. Cependant, cela ne changera rien à mon affection. Pauvre petite, tout cela n'est-il pas mon ouvrage ? Quoique dans l'intention, je n'ai, Dieu le sait, aucun reproche à me faire. » Eugénia fut quelque temps à se rétablir, mais chaque jour rendit plus sensible un nouvel accident dû à sa chute. Outre son visage rétréci et défiguré, elle resta avec une cuisse plus courte que l'autre. Ce surcroît d'infortune fit voir à ses parents d'un œil plus favorable la donation de Sir Hugh. Ils finirent par penser qu'en effet, ils ne pouvaient offrir d'autres réparations à cette jeune et innocente victime.